d'écouter le programme de Studio Kalungu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition de formation de ce mercredi 19 avril 2023. Au micro, Nafisa Adam Sirfo. À la fin du mois de Ramadan, les fidèles musulmans sont tenus de prélever la zakat al-fitr. Dans ce journal, un prédicateur explique comment celle-ci doit être prélevée. Ensuite, il sera question de la déclaration du cadre de concertation pour les luttes démocratiques CCLD Bukata, un regroupement d'organisations de la société civile qui demande la libération de certains acteurs détenus dans des prisons du Niger. Le magazine du journal nous amènera à la découverte du groupement féminin Salma Haré de Terra, des femmes transformatrices du Moringa qui subviennent à leurs besoins. Bonsoir à tous et bienvenue. Avant la fête de Ramadan, les fidèles musulmans sont tenus de prélever la zakat al-fitr. Elle est une obligation pour tout bon musulman libre et qui a les moyens. Le prélèvement de celle-ci se fait deux jours avant la fête de Ramadan. Cheikh Abdel Fattah, prédicateur, explique au micro de Maman Ada.
Le messager sallallahu alayhi wa sallam a instauré la zakat al-fitr, la zakat qu'il faut prélever à la fin du mois de Ramadan aux jeûneurs pour l'expiation de certains manquements, de certains péchés qu'il aura commis durant le mois de Ramadan. À qui faudrait-il prélever la zakat? Tous ceux qui sont sous la responsabilité du chef de famille, dont c'est lui qui les nourrit, la femme, les enfants, les domestiques et les proches parents qui sont avec nous. Et ces quatre mesures du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle Moud. Cette zakat là doit être prélevée soit deux jours avant la fête de Ramadan. Ça doit être prélevé sur les aliments que l'on consomme. On ne peut pas donner l'argent. On ne donne pas l'équivalent parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas demandé de donner de l'argent.
À l'occasion des veilles de fêtes traditionnelles ou religieuses, des signes annonciateurs existent depuis la nuit des temps à Agadez. Le Djajbir, qui veut dire grande nuit, est célébré trois jours avant la fête de l'Eid el-Fitr. On donne ainsi la permission aux femmes de sortir pour les tresses ou le henné et d'autres préparatifs de la fête. Suivons ce reportage d'Anissé Karim.
Au sultanat de l'Aïr, temple et gardien de la culture d'Agadez, la première étape de la tradition de la fête a débuté. Mahmoud Bilal, notable au sultanat, nous parle de la première étape qui est le Jajibiri.
Le grand jour est celui de la veille de la fête. Trois jours avant la fête, on va chez le sultan. Assis et entouré des tambours, il s'élève et rentre dans la mosquée Sadan al-Bukhari. Les marabouts viennent le rejoindre, pratiquent tout ce qui est tradition concernant la fête. On implore le bon Dieu, après on fait l'aumône. On lui prépare ses et marche jusqu'à la porte. Le tambour résonne, donnant ainsi signe de la fête de la fine.
La deuxième étape consiste à faire sortir les grands tambours afin de les utiliser non seulement pour envoyer le message de la veille de la fête, mais aussi rappeler les louanges du sultanat. Cette phrase est expliquée ici par Ilawakata Sarkin Tambourey.
De notre côté, nous sortons les tambours, nous les fixons avec les enfants. Ensuite, nous procédons à laisser en les tapant. À la veille de la fête, quand le croissant lunaire est aperçu, nous tapons le tambour jusqu'à vers minuit. Et le lendemain, quand le chef monte son cheval pour aller à la prière, nous tapons le tambour également. Donc, on tape le tambour à la veille de la fête, le jour de la fête et le lendemain.
Une tradition jalousement conservée par les sages du palais et qui servira de modèle pour les générations futures. Rendez-vous est alors donné le jour de la fête.
La fête de Ramadan arrive bientôt au Niger. C'est un moment où les enfants rendent visite aux parents et connaissances pour la bonne fête. C'est ce moment choisi par Zainab Issa, responsable du service de la protection des enfants de Tessawa, pour attirer l'attention des parents des jeunes filles, ne pas les laisser sortir seules. On l'écoute au micro de Ilia Momouni.
Souvent, c'est pendant les fêtes que les personnes de mauvaise foi profitent des jeunes filles, comme les parents ne les laissent pas sortir avant. Et c'est en ce moment-là que certaines personnes mal intentionnées profitent de ces dernières, soi-disant elles vont leur donner des cadeaux de fête. De grâce, chers parents, soyez vigilants sur vos filles, qu'elles refusent toute offre venant d'une personne inconnue, surtout si ce n'est pas en public. Comment comprendre que pour donner des présents de fête aux jeunes filles, il faut les amener dans des couloirs ou dans des endroits isolés? Chère mère, causez avec vos filles. Attirez leur attention pour éviter ce genre de choses. De nos jours, beaucoup de choses ont changé. De grâce, gardez vos filles à la maison. Ne les laissez pas faire les parcours de cela.
<t'-> Le cadre de concertation pour les luttes démocratiques CCLD Bukata a animé un point de presse ce matin à Niamey. Il demande la libération des acteurs de la société civile détenus dans certaines prisons du pays et demande également la fin de la collaboration militaire entre le Niger et les autres forces étrangères. Écoutons un extrait de ce point de presse avec Anas Jibrilla, coordinateur du CCLD Bukata, sur des propos recueillis par Tarnan Foudey Ahmed.
Le CCLD Bukata demande à la justice nigérienne de se ressaisir pour ne se soumettre qu'aux lois et règlements de la République. Autant la justice est gage de stabilité sociale quand elle est rendue au nom du peuple, autant elle peut être une source d'instabilité et de chaos social si elle est instrumentalisée à la solde d'un clan. Au vu de ce qui précède, le CCLD Bukata exige la libération immédiate de Soumaïl Moukela et de Abdoulaye Seydou, respectivement à la prison civile de Niamey et au camp pénal de Kolo, en abandonnant les charges retenues contre eux. La libération immédiate de tous les défenseurs des droits humains, des leaders d'opinion, des leaders religieux et des détenus politiques. La prise de mesures idoines pour faire face à la flambée des prix des produits de première nécessité. Et enfin, l'arrêt immédiat de la collaboration avec les forces étrangères, particulièrement celles françaises, et leur départ sans condition de notre territoire.
L'actualité en région, un incendie s'est produit lundi entre 20h et 4h du matin à Dakoro de la région de Maradi. Un véhicule appartenant à un fraudeur d'essence a pris feu à côté de 4 autres boutiques pleines d'essence elles-mêmes. Pas de pertes en vie humaine ni des blessés, mais des dégâts matériels. Moussa Dendikoy, un habitant de Dakoro, lance un appel aux autorités pour prendre des dispositions afin de mettre fin au stockage du carburant en pleine ville. Il est interrogé par Adam Oumaru.
Les autorités et la population doivent réagir par rapport à cette situation de dépôt de carburant fraudé. Vous voyez, en pleine ville, on amène une voiture remplie d'essence fraudée. Regardez ce qui s'est passé hier nuit. Heureusement, grâce à Dieu, un drame a été évité. Sinon, le quartier sera ravagé. La voiture a pris feu, mais les gens cherchent à venir vers la voiture. Chacun se rappelle de ce qui s'est passé à Maradi, le nombre de personnes décédées. Si les bidons explosent, combien de personnes vont mourir? Il faut que nos autorités des dispositions. Il y a encore un autre problème, celui du dépôt de gaz. Si une bouteille de gaz explose, combien de personnes vont mourir? On n'a pas empêché aux gens d'exercer leurs activités, mais de grâce, mettez-vous à l'écart. On a besoin plus de camions et d'éléments de sapeurs-pompiers. Pour une ville comme Dakoro, un seul camion et un seul agent de sapeurs-pompiers ne suffisent pas.
Après le corps d'un homme retrouvé le 5 de ce mois au quartier Garkawa le lundi 17 avril, un autre cadavre a été retrouvé dans la même commune de Tawa. Suite à cela, le maire de la commune, inquiet de la situation, demande la collaboration de la population avec la police pour démasquer les auteurs. Mahamoud Idi, maire de la commune de Tawa, est au micro de Abdoulaye Aoussouk.
Ce corps inanimé que les gens ont trouvé, on a informé le chef du quartier. À son tour, m'a informé de ce corps retrouvé. J'ai appelé le commissaire de l'arrondissement communal Tawa 2. On a aussitôt informé le procureur et les personnes qui gravitent autour de cette situation. On est parti sur le lieu. Effectivement, on a trouvé une personne morte qui a commencé à se décomposer. Selon le médecin légiste, le corps était là depuis 3 à 4 jours. On a fait le constat. Après, on a amené le corps au cimetière pour l'enterrer. Tout ce que je peux dire, c'est que le Niger est un pays de droit. Il y a des voies de recours pour vous remettre dans vos droits. Se faire justice est interdit. Ce qui s'est passé à Garkawa est une mauvaise chose. Et souvent, les choses se passent devant les gens, mais malheureusement, ils ferment les yeux. On est obligé de collaborer. Fermer les yeux, c'est une pratique.
L'actualité toujours en région, les personnes handicapées de la ville d'Arlit disposent d'un centre d'apprentissage de métiers. Ce centre a vu le jour il y a plus de 10 ans avec le soutien d'Orano. Seulement, depuis quelque temps, ce centre rencontre des problèmes avec l'amortissement du matériel. Idriss Maman, responsable du centre, lance un cri de cœur à l'endroit des autorités pour sa réhabilitation. Il est au micro de Abdoulaye Moutari.
Dans cette ville, les personnes handicapées souffrent vraiment. Dès que le soleil se lève, ils partent en ville. Certains vont à Guidandaka, d'autres à la Soumaïr. Ils sont obligés de mendier. Or, nous ne voulons pas à ce qu'ils s'adonnent à la mendicité. Nous voulons qu'ils soient comme tout le monde et cela passe par leur insertion dans le centre de métier, chacun en fonction de sa spécialité. Ça va contribuer à réduire la mendicité. Mais vous faites une formation, vous ne pouvez pas en profiter. Moi, présentement, je dispose de 4 diplômes. mais ils ne servent à rien. Nous appelons les responsables en charge de la question de revoir la situation des personnes handicapées.
La commune de Goudmaria est connue pour ses dattes appelées maga, produites par plus de 44 palmiers dattiers pour environ 1738 producteurs. La production annuelle est évaluée à environ 845 000 kg. Ce fruit, très prisé par les Nigériens, est aussi transporté par le Nigeria. Il contribue à l'économie de la commune, mais de nos jours, les dattiers connaissent un problème de régénérescence. Jambouto Aboubakar, exploitant des dattiers, explique au micro de Mohamed Madou.
La production des dattes a beaucoup baissé. Auparavant, nos terrains étaient humides. La nappe n'était pas profonde. Quand les dattiers poussent, un an, deux ans après, ils commencent à produire. Nos parents ont cultivé les dattes il y a 20, 30, 40 ans. Les dattiers grandissaient. Certains avaient une taille de 30 mètres, d'autres 25. Maintenant, il n'y a plus d'humidité, ce qui fait que les dattiers meurent. La nouvelle génération n'a pas cherché à s'équiper des motopompes. Or, sans cela, on ne peut pas faire la culture des dattes. De nos jours, si vous n'entretenez pas vos cultures, vous n'allez rien récolter. Auparavant, si vous semez des dattes, elles poussent et grandissent sans problème. Mais maintenant, il faut un suivi régulier.
Le magazine de ce journal, elles sont au nombre de 30 les femmes qui composent le groupement féminin Salma Haré de Terra. Elles font la production et la transformation du moringa ainsi que d'autres produits maraîchers comme activité génératrice de revenus. Selon Aminata Kadri, chef du groupement, cette activité leur permet non seulement de gagner quelque chose pour satisfaire les besoins de la famille et payer les fournitures scolaires pour les enfants, mais aussi d'approvisionner la commune de Terra et ses environs en moringa. Elle est interrogé par Moussa Boukari Kanda.
Amine Kadiri, quelle est votre activité?
Nous produisons du moringa que nous plantons et cultivons. Après l'avoir cultivé, nous associons aussi des plantes comme le maïs, la pomme de terre, la salade, le chou, l'oignon ou la carotte dans le jardin. Mais la principale plante reste le moringa. Nous sommes 30 femmes qui travaillons au sein du groupement Salma Haré.
Comment se font les activités au sein de votre groupement?
Une fois en maturité, nous vendons les feuilles fraîches de moringa, notamment à ceux qui ont des cérémonies de baptême ou de mariage. Nous faisons aussi la transformation en jus de moringa, en poudre sec de moringa ou en feuilles bouillies à sécher. Nous vendons les graines de moringa et fabriquons aussi l'huile et le savon de moringa.
Que faites-vous des bénéfices que vous en tirez?
Les revenus que nous tirons de cette activité nous servent à beaucoup de choses, comme payer les soins des enfants, payer leur scolarité, les tenues et les fournitures d'école. Nous nous entraidons lors des mariages, baptêmes et autres cérémonies, avec des feuilles de moringa et de l'argent. Nous avons une cotisation hebdomadaire et une autre mensuelle de 1000 francs pour la caisse du groupement.
Pendant la saison sèche, où trouvez-vous de l'eau pour arroser le jardin?
Le tuyau qui approvisionne notre jardin est communiqué directement au barrage, car nous sommes en amont du barrage. Nous avons une piscine pour collecter et des tuyaux de distribution. Mais si le niveau de l'eau baisse, nous consommons trop d'essence. Si tu utilises 3 litres pour un espace, il te faut plus, jusqu'à 5 litres si tu l'as déjà cultivé. Sinon, nous n'avons aucun problème dans ce jardin. Nous y faisons tranquillement nos transformations de moringa, de balanites et de sésame. Nous fabriquons leur jus, leur savon et leurs huiles que nous exposons dans notre boutique. Vu que nous sommes fréquemment au jardin, ceux qui ont nos contacts nous appellent pour qu'on envoie un enfant leur vendre. L'huile de moringa coûte 5 000 francs. L'huile de balanites et de sésame coûte 6 000 francs.
Avez-vous un appel?
Nous nous sommes toujours plaints du manque d'eau, pas pour notre jardin seulement, mais pour toute la région de Terra. Les clients nous viennent des fois de très loin. Souvent, c'est par téléphone que les gens disent qu'ils ont des cérémonies de baptême ou mariage. Nous leur demandons seulement le nombre de sacs qu'ils veulent. Vous voyez, c'est d'utilité publique. Ensuite, nous voulons des formations aussi.
De ce journal, merci de votre attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.